du Québec dans Portneuf, le tout qui sera officialisé aujourd'hui. À la CAQ, Christine Fréchette a confirmé deux candidatures, notamment celle de Guillaume Rousseau. Ça avait commencé à circuler au courant de la semaine dernière. À l'international, le bilan qui continue de s'alourdir après le double séisme qui a frappé le Venezuela mercredi dernier. On parle maintenant de près de 1500 morts, alors que des dizaines de milliers de personnes sont portées disparues. Il y a autour de 200 immeubles qui ont été complètement détruits. Puis là, j'ai vu passer dans les dernières minutes, qui a eu une autre secousse ce matin. Donc là, à voir à quel point ça aura eu un impact, là. Mais on parle d'une autre secousse quand même assez importante qui a frappé dans les dernières heures au Venezuela. Et les États-Unis et l'Iran ont accepté de mettre sur pause leurs attaques avant une rencontre prévue demain. Après le protocole d'accord signé le 17 juin, les frappes qui ont repris dans les derniers jours, le contrôle du détroit d'Ormuz là, qui reste encore bien problématique. Donald Trump qui menaçait encore samedi soir là, de complètement anéantir l'Iran si le conflit perdure. Les sports. Coupe du monde de soccer, le Canada qui accède au 8e de finale grâce à une victoire de 1-0 sur l'Afrique du Sud. Stephen Eustachio qui a marqué le seul but du match en temps additionnel pour propulser le Canada là, le Canada vers ce moment historique-là. Les Canadiens qui vont affronter maintenant le 4 juillet le gagnant du match entre le Maroc et les Pays-Bas qui lui sera disputé ce soir 21h. Pour ce qui est de nos capitales, série à oublier face aux Boulders de New York avec 3 défaites. Québec qui va amorcer demain une nouvelle série à Schaumburg. Séquence à oublier également pour les Blue Jays de Toronto. 3 défaites face aux Rangers du Texas. On est rendu à 6 défaites de suite pour les Jays. On reçoit maintenant les Mets de New York pour une série à Toronto. On va essayer de replacer ça. Et pour ce qui est du Canadien de Montréal, après le repêchage qui se tenait en fin de semaine, le CH qui va amorcer son camp de développement à Brossard avec des tests physiques. On ne sait pas encore si le premier choix du Canadien vendredi, Gleb Pougachioff, sera présent.
Merci beaucoup le chroniqueur politique international David Chabot qui est avec nous en studio. Salut David.
Salut, salut.
Content de te voir. Tu as travaillé en politique municipale pendant des années années. J'aimerais ça, tantôt on jasait de ça avec Jeff et Max, j'aimerais ça savoir pourquoi les villes, en fait les gouvernements municipaux, que ce soit le provincial, le municipal ou le fédéral, pourquoi on attend tout le temps la fin des conventions collectives pour négocier avec nos employés? À qui ça profite? Ça profite-tu aux villes? Ça profite-tu aux employés? Là, je vois que les moyens de pression des policiers de la Ville de Québec, que je salue, là, on a le meilleur corps de police à Québec. Et depuis 2003, leur convention collective n'a pas été renouvelée. On est en train de négocier là, actuellement. On va peut-être avoir des nouvelles dans les prochaines semaines. J'ai demandé une entrevue à Martine Fortier ce matin, qui est la présidente du syndicat du service de police de la Ville de Québec. Et j'ai hâte de savoir, mais pourquoi les villes attendent si longtemps avant de négocier convention collective? C'est-tu pour avoir le gros bout du bâton? Parce que j'ai l'impression que nous, les citoyens, on est perdants. Là, ça vient de nous coûter 1 million. Là.
Ben, écoute, normalement, tu commences les conversations pareil assez tôt, là, tu sais, dans le sens que tu sais que la convention va être échue. Fait que là, tu vas commencer à faire des discussions préliminaires. Sauf que ça dépend tout le temps de la position initiale des deux parties. Tu sais. Soit que la ville en veut pas donner, veut pas mettre plus d'argent sur la table, ou l'autre partie syndicale, okay, en demande beaucoup plus.
Mais on part avec l'idée que tout le monde mérite une augmentation de salaire. Là.
Ouais.
OK. Après ça, on pourrait pas, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, je sais pas qui gère ça, dire à chaque année, ben un policier ou encore un pompier, c'est un 3% qu'il va avoir. Il n'y aura pas une scène de plus, pas une scène de moins. À chaque année, c'est un 3%.
Oui, ben c'est ce qui devrait être fait parce que finalement, chaque
syndicat...
Parce qu'on
perd de l'argent tout le temps.
Les villes se utilisent les autres villes comme levier. Si les cols blancs de, je dis n'importe quoi, Gatineau, ont eu 4%, puis là, ben, t'arrives à Lévis, là, pour prendre un exemple. Tu sais, dans le fond, l'employeur, la ville, demande pas offre 2,5%. Ben, tu vas dire, ben à Gatineau, ils ont eu 4, pourquoi tu me l'offres pas? Là, ça devient tout le temps comme ça une surenchère, finalement, parce que tout le monde s'arrime vers le plus haut qui a été négocié. Ça a été vrai avec la police, ça a été vrai avec les pompiers. Puis encore une fois, personne ne vole personne là-dedans. Là. C'est juste de bonne guerre. Mais ton idée est vraie. Pourquoi il n'y a pas un taux centralisé, si on veut, municipal? Ben, en fait, à l'échelle de la province, mais pour les employés municipaux, je pense que ça serait une excellente idée. Il y a certaines nuances quand même parce qu'il y a des réalités différentes dans chacune des villes. T'sais, être policier, par exemple, à Montréal, on l'a vu, c'est pas mal plus rock'n'roll que à Jonquière, mettons, sans rien enlever à personne à Jonquière, là, c'est peut-être plus tranquille.
Mais en même temps, c'est le même job. T'sais, le policier à Montréal, effectivement, il peut y avoir plus de risques, mais le policier de la Sûreté du Québec à Montréal, c'est à peu près la même affaire, là, t'sais, que le policier de Québec qui est sur l'autoroute qui patrouille. Là,
absolument. Fait que là, cette question-là, à ma connaissance, ça n'a jamais été débattu d'un point de vue provincial, puis ça devrait l'être.
Mais ça pourrait être une bonne idée. Il faut vraiment que ça soit une initiative du provincial pour dire, pour tous les corps de police municipaux, tous les pompiers, tous les fonctionnaires, 3 % pas une scène de plus, pas une scène de moins. Puis, au travers de ça, bon, on négociera ce qu'il y a à négocier. Mais là, de voir que les policiers de la Ville de Québec refusent de donner les billets de contravention tout de suite, ils envoient ça par la masse, c'est du courrier recommandé. Là.
Ouais.
Je pense que c'est ça le nom. Ben, ça nous coûte 1 million de plus. On n'a rien à gagner en tant que citoyen à ce que ça reste comme ça. Puis, tu sais, il y en a qui vont dire « Ouais, les policiers à Québec, ils gagnent trop cher ». On travaille tout pour notre argent, soit dit en passant.
Ouais.
Puis, tu sais, si tu gagnes 100 000 par année, ben, tu vis pour 100 000 par année. T'en gagnes 200, tu vis pour 200. T'en gagnes 50, tu vis pour 50. Fait qu'une augmentation de salaire de 3 % par année, c'est pas trop demandé. Là. C'est pas trop donné.
Ben, écoute, faire un chiffre de police, d'après moi, ça ouvrirait les yeux à beaucoup de gens. Moi, je l'ai jamais fait, mais il y a des
ouais.
cobras qui se font. Puis,
ouais,
tout le monde
y a tellement de problèmes en santé mentale maintenant réglés du ouais. côté des policiers aussi.
Ouais, ça, t'es pas seulement un gars qui court après les bandits pour caricaturer. La seule nuance que je mettrais à notre idée de mettre ça à grandeur de la province, c'est que si ça marche pas, tu gèles tout le monde en même temps. Fait que là, si on parle de la police, pompiers, parce que en l'occurrence, c'est ça, mais mettons, on se dit l'école bleue à grandeur de la province, là, ça s'entend pas, ils veulent 6 % puis le gouvernement, dans le fond, met ça à table 3,5. Là, ça finit que le gouvernement provincial deviendrait négociateur pour les villes, mais mettons, dans ce scénario-là, ben là, l'ensemble des écoles bleues de la province va arrêter de travailler. Ou vont mettre des moyens de pression. Puis là, ça veut dire que toutes les villes vont chier en même temps. Là. Fait que, tu sais, il y a ce downside-là.
Mettons que t'es col bleu à Montréal ou que t'es col bleu à Gaspé, OK? On
ouais.
s'entend que c'est deux villes complètement différentes, là. Tu perds rien, mais on t'augmente de 3 % à Montréal. T'es à Gaspé, tu perds rien, mais on t'augmente de 3 % à Gaspé. Tu penses qu'ils vont tout geler à grandeur du Québec?
C'est ça qui se passe avec les conventions collectives. Il y a toujours une augmentation qui est mise à la table, ou en tout cas, je dis toujours la vaste majorité du temps.
Oui, mais tu fixes ça à 3 %. Projet de loi spécial,
ouais.
augmentation de salaire pour quand tu es fonctionnaire municipal, provincial, fédéral, 3 %. Ben, le fédéral, c'est pas nous autres qui s'en occupent.
Mais mettons par décret. Là. Sauf que là, je pense, puis là, je m'avance, okay, je suis pas juriste, mais selon moi, c'est un peu anticonstitutionnel parce que les syndicats ont le droit de se représenter sur leurs intérêts.
T'sais. Abolition de la formule REN.
Écoute, là, ça, c'est une autre conversation. Ça, c'est une autre conversation.
Malade mental!
Je te souhaite bonne chance.
Hey, abolition de la formule REN.
Ben, tu sais, il y a certains trucs de cette formule-là qui doivent être revus, je pense. Là. Mais c'est ça, tu sais, demain matin, mettons, t'as plus le droit de négocier. Là. C'est le gouvernement provincial qui décrète, bang, 3 %. Ben, tu viens contourner, dans le fond, la Constitution puis le droit de représentativité. Oui, on est toujours lundi quand je viens ici. Hein. C'est des fois, c'est...
Ben oui.
Fait que ça va finir que, tu sais, les syndicats vont tous faire la marche au Grand Allée, tous les bras croisés, puis là, t'as plus juste les syndicats nationaux, là, t'as tous les syndicats locaux, là, et ça peut chier vite, là. Fait que là, tu sais, comme moyen de pression d'envoyer ça par la poche, je trouve ça quand même, c'est chiant, parce que là, on parle de 1 million qui va être décaissé pour rien, là, mais tu sais, c'est quand même pas fou, parce que finalement, le service est donné, les tickets sont normalement, en théorie, collectés quand même. C'est juste la façon de donner, dans le fond, le billet qui change. Puis je trouve ça quand même intéressant. T'sais. T'sais, les pantalons de camouflage, là, puis ce qu'on appelle des pantalons de clown des fois pour la police, t'sais, ça fait pas mal à personne, mais c'est visible. T'sais, c'est tout le temps un peu tannant, irritant, mais t'sais, là, c'est tout le temps la balance quand tu es du côté
ouais.
syndical. À quel point tu mets de la pression versus tu te fais haïr par la population.
C'est peut-être moi qui est trop cheap. Là. Moi, je pense que quand quelqu'un est un danger sur la route, il faut absolument que tu lui donnes un billet de contravention. Mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus de zèle sur la route. C'est-à-dire, OK, ben il roule à 57 km/h d'une zone de 50. Normalement, je devrais donner une étiquette, là, j'y en donnerai pas. Tu sais, pour qu'il y ait un manque à gagner
ouais.
plutôt qu'un million de dollars que ça va nous coûter à la Ville de Québec. Parce que le meilleur marchand va se reprendre. Ce million-là, il faut qu'il le prenne ailleurs. Là.
Mais tu sais, parlons d'un peu de relations publiques pour les syndicats. Là. Dans leur position, tu peux pas dire on va être laxiste. On va laisser non. des choses passer parce que ta job comme policier, c'est de protéger la population.
Surtout avec les stats en sécurité
dire...
routière de la Ville ouais. de Québec. Là,
ben,
dans,
c'est ça.
Mais tu sais, Jeff, tu peux dire quand le citoyen il est poli, pourquoi il donne une étiquette? Il a compris, là.
Ouais, mais tu peux pas le dire. Tu comprends? C'est parce que dans le fond, là on se parle de communication.
Ouais, ouais.
Tu peux pas le dire, mais le col bleu, le chef des cols bleus nous l'avait dit. Là.
Ouais, mais le problème, c'est que c'est déjà...
Ralentissez.
Ouais, le problème, c'est que c'est déjà arrivé que les policiers ont fait ça. Puis là, après ça, c'est sorti dans les médias. Hey, regardez, ils donnaient pour X millions de contraventions, puis là, c'est juste 200 000.
Ouais, mais j'aime bien mieux ça. J'aime bien mieux un manque à gagner qui vont peut-être pouvoir se reprendre plus tard, que ça nous coûte un million directement
mais
dans
ça
nos poches.
Mais je me souviens que ça s'est enviré contre eux autres, de « ben voyons donc, ils font pas leur job parce qu'ils sont en moyenne de pression », alors que là, ils à fond. C'est juste qu'ils font chier l'administration municipale. Mmh. Mais je te comprends que tu te dis, voyons, ta barouette, ça nous coûte un million. T'as entièrement raison.
C'est le gars qui est en rollerblade électrique, là. T'sais, ils ont donné étiquette avec son rollerblade électrique. Là. Ouais. C'est comme un contrevenant, là. C'est un danger public. Là. Ils ont donné étiquette. C'est toujours bien juste un rollerblade électrique, là. T'es-tu vraiment obligé de donner étiquette là-dessus?
Non, non, en effet.
Ben, sur le terrain, tu peux faire ça. Mais tu peux pas promouvoir ça provincialement ou municipalement, en tout cas, là, régionalement, parce que là, tu t'en viens dire, je fais pas ma job. Tu comprends? Fait que là, comme syndicat, tu peux pas te placer dans cette position-là. Fait que là, faire des moyens de pression du genre, envoyer ça par la poste, c'est totalement légal. Y a pas d'enjeu. Regarde, je veux dire, on va l'envoyer, puis là, ça met de la pression, puis clairement, t'enlèves pas du service à la population, mais à l'inverse, tu fais chier tout le monde avec ça. Parce que, tu sais, les syndicats, c'est tout le temps une balance, tu sais, comme je te disais tantôt. Tu veux être tannant parce que tu veux te faire entendre pour que les politiciens disent, hey, là, on va régler, là, il faut que ça arrête, que ça brasse. De l'autre bord, si t'es trop tannant, ben là, ça finit que c'est la population qui sont en étage, puis ils aiment pas ça. Fait que c'est pas une position facile de faire des RP, puis de, tu sais, de la stratégie, mettons, dans les syndicats, là.
T'as été en politique municipale, tu connais un peu la politique provinciale puis la politique internationale, David. Fait que je vais profiter de t'en parler de ce sujet-là. Tiens, Québec solidaire qui arrive avec une idée qui va déplaire à la majorité des individus, là. Ils voudraient serrer la vis aux propriétaires d'immeubles de logement au moment de la vente de leur actif. Et là, tu sais, on s'attaque pas au Mr. Burns dans Simpson, là, tu sais, le milliardaire. On s'attaque aux propriétaires qui pourraient s'acheter un 2 logements. Ou un 3 logements, ou un 4 logements. Et si ces gens-là habitent dans ces logements-là, puis par la suite rencontrent Maxime ou Maximus, tiens, puis ils décident d'aller habiter dans une maison, mais qu'ils décident de louer son immeuble, son logement dans son immeuble, bien là, si dans 2, 3 ans, 4 ans, ils décident de vendre l'immeuble, ils veulent pas qu'ils soient imposés à 50 % comme c'est le cas actuellement. Ils veulent les imposer à 100 % sur le gain en capital. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, Québec solidaire, de promouvoir ce genre d'idée complètement débile?
Puis rappelons qu'ils veulent mettre une taxe aussi sur les actifs nets des gens qui ont 25 millions et plus, même si tu les liquides pas. On se comprend? C'est toute la même mouvance, là. C'est de dire ce que tu as dans les poches, ça m'intéresse, puis je vais aller en chercher pour mettre ça dans les services d'État. T'sais. Clairement, ce qu'ils veulent, c'est plus de revenus, parce que tu as deux courants politiques. Tu as ceux qui veulent que le gouvernement soit le moins gros possible, genre Éric Duhaime, puis tu as ceux qui veulent que le gouvernement soit le plus gros possible, QS. Là, je viens pas d'inventer grand-chose, là, c'est pas mal ça. Fait que là, dans ce cas-ci, ben, c'est d'aller chercher plus d'argent dans tes poches, dans mes poches, puis tout ça. Ce que j'aime pas de cette vision-là, là, c'est qu'ils ont l'impression que le capital n'est pas mobile. Mais le capital est plus mobile que jamais.
Eh oui.
Puis on peut se dire, là, OK, là, quand t'as des grandes fortunes puis tu vaux des milliards, là, tu vas avoir des grands stratèges financiers qui vont te placer ça au Bahamas, tout ça. OK, ça, c'est un autre niveau, là, on se comprend. Mais localement, là, mettons que ça t'écœure d'investir en immobilier parce que t'as pas le rendement qui est attendu. Là, pour un 4 logements, comme tu dis, là, avec le beau-frère puis tout ça. Ben, tu vas juste prendre cet argent-là puis l'investir en bourse dans une entreprise américaine.
Exact.
C'est ça qui va se passer. Puis les rendements boursiers actuellement sont phénoménales, on se comprend. Donc là, c'est ça la mouvance du capital. Puis c'est pas juste des grandes stratégies aux Bahamas. Donc là, je trouve que c'est à chaque fois que tu dis, hey, ton investissement, on va aller en chercher le fruit de ça, là, ben, c'est tout le temps dangereux de dire, ben, finalement, on va décourager l'investissement privé. Puis le Québec n'est pas un grand champion, si on veut, de l'investissement privé à travers la planète. Bien que l'environnement fiscal n'est pas si pire que ça pour les entreprises au Québec. Mais quand même, on n'est pas les grands champions internationaux. Puis si on prend un exemple comme l'Irlande, qui ont fait totalement l'inverse, puis eux autres, ils ont dit, on lève toutes les restrictions, puis c'est rendu un paradis d'investissement. C'est drôle, hein, mais l'argent pleut là, en ce moment en Irlande. C'est pas parfait, là, tu sais, la population ne voit pas nécessairement tout le temps le dividende de ça, mais c'est une économie qui est à boom incroyable depuis 10 ans, à cause qu'on s'est tassé du chemin.
Mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner? C'était ma question, David. Ben, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ouais, mais
C'est
parce qu'ils ne scorent pas dans les sondages.
Oui, mais tu comprends? Ça c'est une base. C'est un parti politique qui parle à sa base militante. Puis ça, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné depuis le début. Tu as GND, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est rentré en disant « Écoute, je vais être un peu plus mainstream. » Il l'a jamais dit publiquement, mais clairement, c'est ça qu'il voulait. Il voulait être un petit peu plus grand public. Manon Marcet a fait pareil. Puis Françoise David aussi était quand même dans ce vibe-là. T'sais. Puis c'est là que le parti a eu ses meilleurs scores. Là, on se ramène vers une espèce d'orthodoxie là, extrémiste de dire « Regarde, nous autres, c'est on va chercher l'argent dans la poche des pauvres, puis, des riches, je veux dire, puis on le met dans la poche des pauvres. » Puis je comprends cette philosophie-là. Moi, je l'attaque pas nécessairement. Tu as le droit de représenter ce que tu tu veux, mais clairement, ça passe pas dans la population.
Ben, leur philosophie, puis leur mentor, c'est Zoran Mamdani à New York. Puis ouais. Les autres, ils disaient, si y a un Mamdani à New York, on est capable d'avoir un Québec solidaire à Québec. Ruba Gazal me l'a dit en entrevue. Là. Fait ouais. Qu'il continue dans cette mouvance-là. Cela dit, en termes économiques, là, tu dis l'argent se promène. En fin de compte, elle se promène-tu puis ça nous donne plus de taxes parce que j'en rajoute de quoi que si tu viens percevoir direct à la première transaction?
Ben, tu sais, dans ce cas-ci, mettons, là, c'est de prendre pour acquis, on taxe 100% du gain capital, là, c'est de prendre pour acquis que cet argent-là, tu vas pas le réinvestir. T'sais, tu fais un investissement, tu cash out, puis on va te taxer à 100%.
Alors que c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de réinvestissements qui se font. Si je prends l'exemple de l'Irlande, j'imagine que dans le calcul qu'ils font, ça, ils disent à coût de réinvestissement... de particulier, ben on s'enrichit plus que si on taxe le premier, la première transaction.
Oui, ce que tu veux, c'est que le capital roule, justement, que tu réinvestisses, que tu fasses grandir l'économie durablement parce que tu prends ton capital, ton équité, puis là, tu investis dans un projet, puis là, une fois qu'il est stabilisé, tu ressors ton équité de là, puis tu l'investis dans un autre, puis tu as toujours le premier projet. Je veux dire, ça aussi, je n'invente pas grand-chose, là, c'est la base pas mal de l'économie. Donc, quand on veut s'attaquer à ce capital de travail-là, je mets ça en guillemets, ben c'est là que tu vas freiner encore plus le développement économique.
Ben oui.
Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est qu'on va remettre de l'argent sur la table publique, là, en disant, hey, on va investir, mettons, des centaines de millions dans un
truc. C'est le gouvernement qui va choisir les gagnants, puis on va se retrouver dans un Nordvolt.
Exact. Là, j'aimerais ça la citer parfaitement à chaque fois, mais je me souviens jamais de la formulation, mais Reagan qui disait, tu sais, si ça bouge, taxe-le, si ça bouge encore, réglemente-le, puis si ça bouge plus, mais subventionne-le. Là.
Ouais.
Ben, c'est ça, là. T'sais, on aime bien ça. Tout faire pour contrôler le développement économique tellement parfaitement, puis on arrive à la fin, puis on dit, ah, ben finalement, ça marche pas, fait qu'il faut mettre plus d'argent public pour que ça reparte.
Donc, Québec solidaire propose d'imposer 100% le gain en capital, pas pour les gros propriétaires. En fait, oui, pour les gros propriétaires, mais aussi pour les petits propriétaires. Donc, ça toucherait les condos, les plex, les immeubles à logement. C'est ce qu'on nous mentionne, que ce soit un 2 logements, un 3 logements, un 4 logements. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aurait peut-être une petite exception si jamais la personne habite dedans. Ça, c'est tout à fait normal, là. Mais n'en demeure pas moins que tu habites dans un condo, c'est ton condo, tu rencontres quelqu'un, tu désires aller rester avec cette personne-là, puis tu loues ton condo. Si jamais ça va bien, puis tu décides de vendre ton condo, tu n'es plus considéré comme un propriétaire résident.
Ah oui, ça devient compliqué. Puis ça, c'est une philosophie aussi que la propriété privée du logement n'est pas positive. Puis il y a un bout que je comprends de QS là-dedans, c'est qu'ils disent, tu sais, se loger, dans le fond, c'est un besoin de base. Puis si tu as un 3 logements, dans le fond, c'est un peu te loger puis avoir un petit investissement sur le côté, fait que ça, on ne touchera pas. Mais si tu es un grand propriétaire qui a 100, 200, 1000 portes, là, c'est plus juste ton besoin primaire. Là, c'est une entreprise commerciale. Okay. Puis ça, ben on devrait pas faire ça pour le logement. Ça, c'est la philosophie qui vient en arrière de ça. Maintenant, je trouve ça un peu naïf de penser qu'on peut arrêter ça. Parce que c'est vrai qu'il y a une surenchère dans le logement, on en parle souvent ensemble, les coûts de construction ont explosé, puis il y a des raisons à ça qui sont publiques, là, qui n'ont rien à voir avec le marché privé, puis le profit, puis la recherche de profit. La marge bénéficiaire en immobilier a toujours resté à peu près la même. C'est tous les coûts structurels qui ont continué à augmenter. T'sais. Là, dans ce cas-ci, ce qu'on se dit, c'est le privé, s'ils ont de l'immobilier, puis ils en font de l'argent, faut aller chercher cet argent-là pour que les services publics, dans le fond, soient bonifiés. C'est un peu ça la philosophie qui vient derrière ça. Je trouve ça un peu naïf parce que c'est pas vrai que le public peut répondre à tous les besoins à logement.
Ben non.
Encore ce matin, il y avait un article sur les 25 000 logements qui sont libres.
Ouais, c'est ça, à l'île de Montréal.
Ouais, puis il y a un autre article aussi sur. Ben, c'est Mario Dumont, en fait, qui disait que le logement social, tu sais, il y avait des milliers d'unités qui n'étaient pas utilisées parce qu'ils étaient juste scrap, parce que c'est géré par, finalement, les gouvernements locaux. Puis, tu sais, je veux dire, les gens de l'OMHQ à Québec, mettons. Ouais,
puis, ils parlaient. C'est, y a une bâtisse à Québec là, qui appartient justement à l'OMHQ. Là, c'est un ancien monastère.
Ouais, les franciscains.
Les franciscains.
Tu fais des images un matin.
Il est en train de s'écrouler.
Ben ouais.
C'est géré par la ville.
Mais, tu sais. Les gens de l'OMHQ, là, je veux dire, je leur parle souvent là, par la force des choses. Là,
ouais.
C'est tout du monde qui veulent. Là. Tout le monde veut là-dedans. Là. Puis la ville aussi veut. Tout le monde veut. Là. C'est juste qu'à un moment donné, tu vas finir par manquer de l'argent des autres. Puis c'est ça qui se passe. C'est que c'est pas parce que l'OMHQ se dit « je m'en sac » puis les gens vivront dans un taudis. C'est pas ça partout. C'est juste qu'ils n'ont pas les ressources pour pouvoir les entretenir. Mais c'est parce que c'est ça que ça crée. Quand tu fais du logement purement public, ben là, il faut toujours que tu rajoutes de l'argent parce que la maintenance des actifs, ça coûte cher. Là.
On serait plus gagnant, selon moi, à donner, puis là, je vais prendre le terme subvention, là, ou des aides économiques aux promoteurs privés pour garantir une certaine strate de logement abordable et social, puis je pense que l'entretien serait mieux.
Ça pourrait être une façon de faire.
C'est une des façons, effectivement, mais tu sais, la grosse question fondamentale, c'est toute la réglementation par rapport au logement, puis le code du bâtiment, là, ça a pété récemment, là, parce que là, oups, ça en est en octobre, là, tout le monde s'est allumé en même temps. Mais tu sais, il y a des demandes là-dedans qui n'avaient pas de bon sens. Tu sais, la résistance sismique, les bâtiments à Québec ne s'écroulent pas, puis il n'y a pas souvent des tremblements de terre, je comprends, mais tu sais, je veux dire, c'est pas un problème social, puis on va renforcer ça, puis tripler la résistance là-dedans, puis ça coûte 70% plus cher de faire de la structure, tu sais. À un moment donné, pourquoi? Mais ça, personne vraiment se pose la question, sauf là récemment. Mais ça, c'est tous des coûts qui sont intrinsèques à la nouvelle construction. Puis là, ben, le marché du vieux va s'arrimer avec le marché du neuf. Fait que là, ça finit que ça crée cette balance-là.
David Chabot, on revient sur le dossier Iran-États-Unis. Hier soir, on a compris ou on s'est fait dire que l'Iran et les États-Unis ont accepté de cesser de s'attaquer. On va mettre entre guillemets « pour le moment ». On ne sait pas si dans les dernières minutes, ils se sont attaqués.
Là. Ben là, Trump a écrit sur tout social dans les dernières minutes en majuscule « Iran has requested a meeting. It will take place tomorrow in Doha ».
Donc, on a prévu de se rencontrer l'Iran et les États-Unis au Qatar pour résoudre les différents présentements, entre autres en ce qui concerne le fameux détroit d'Hormuz.
Oui. Ben, en fait, Trump a écrit ça en majuscule, parce que c'est important qu'il le dise en majuscule. Sauf que l'Iran, ce matin même, a dit « Nous autres, on n'a pas intérêt à faire de rencontre. » Fait que là, c'est tout le temps la même histoire. On s'en reparle à tous les semaines, puis on dit « Qu'est-ce qui se passe là-dedans? » Puis je ne sais pas. Fait que là, mettons, ça fait un état des lieux, OK? Le détroit d'Hormuz est ouvert, mais il faut que tu déclares ton bateau, ton navire en transit, au moins en Iran, puis peut-être même au Qatar.
Il faut que tu frôles les côtes de l'Iran.
Oui, pour assurer la sécurité d'eux. Puis là, oups, bientôt, ils vont probablement avoir un péage qui va apparaître là-dedans. Okay? Fait que là, ça, c'est ce qui se passe dans le détroit d'Hormuz. Puis là, ben, je regardais juste avant qu'on se parle, le volume de navires qui transitent par Hormuz, puis je pense que la somme totale de tous les bateaux qui ont passé depuis le début de la crise n'est pas aussi grande qu'une journée de transit avant la guerre. Okay? Fait que la somme depuis mars, là, c'est des virgules. Là. C'est genre 3, 4, 5 navires par jour. Donc, la situation est loin d'être réglée. Donc, ça, c'est pour Hormuz. Après ça, ben, évidemment, on sait qu'Israël, c'est un gros point dans cette histoire-là parce que l'Iran a été très habile pour lier le comportement d'Israël avec son traité de paix avec les États-Unis. Donc là, Israël est très actif à Gaza. On le sait, il y a un génocide en ce moment soft. Là, ça se tire plus à coups de balle, mais là, il y a des gens qui meurent, il n'y a pas d'équipement médical. Je veux dire, c'est l'asile ce qui se passe à Gaza, puis personne n'en parle vraiment. Le Liban, c'est à feu et à sang. Ça se rend même dans la banlieue de la capitale parce qu'on veut éradiquer le Hezbollah. Là, récemment, Israël est rentré en Syrie. Syrie, qui est un pays qui n'est pas super stable, mais pas super en guerre non plus, parce que vers l'ouest du pays, finalement, la limitrophe avec Israël, ben il y a des groupes terroristes qui se sont regroupés là, parce que là, jusqu'à récemment, c'était tranquille. Donc là, c'est Israël qui fout le feu dans la région. Puis là, les États-Unis n'ont pas le contrôle sur Israël, parce que là, Netanyahu a dit « Fuck off, m'en faire bien ce qui me tente ». Fait que là, les États-Unis ont perdu le contrôle là-dessus. Puis il essaie de négocier avec l'Iran. L'Iran dit « Ouais, mais contrôle Israël. » Puis là, Trump n'a plus le contrôle dessus. Donc, là...
Okay. Samedi, le président s'est encore une fois choqué. Je ne sais pas s'il l'a écrit en majuscule, mais il a dit que si l'Iran continuait, l'Iran allait cesser d'exister. Est-ce que ce serait ça? Je te pose une question, ce n'est pas une opinion. Là. C'est-tu ça la solution? Dire aux gens « Il vous reste 15-21 jours pour quitter le pays, puis après ça, on construit un beau gros stationnement-là. »
Je ne peux pas croire que tu poses la question pour vrai, parce que, tu sais, je veux dire, la guerre nucléaire, ça va toujours finir que toute la planète va sauter. Il n'y a jamais un conflit où une puissance nucléaire va utiliser l'arme atomique, l'arme nucléaire, dans un autre pays, puis que ça va s'arrêter là. Ça se peut pas.
C'est pour ça que je t'ai dit, je te pose une question, c'est pas une opinion.
Non, non, non.
Sais-tu ce que Trump fait, sais-tu réalisable?
Ben, en fait, c'est parce que là, il est mal pris. Là. Puis plus ça va, plus on découvre la stratégie iranienne, tu sais, de haut niveau. Là. Parce que là, ils ont amélioré leur position à tous les tournants dans cette histoire-là. Puis là, maintenant, c'est eux autres qui contrôlent le pèse de la négociation. Donc là, Trump n'a plus beaucoup de levier là-dedans. Il faut juste qu'il s'en sorte le plus vite possible. Puis ça ne sera pas des solutions militaires parce qu'ils l'ont fait pendant un mois. Ça a coûté des milliards, des milliards, des milliards. Puis finalement, il n'y a pas eu de changement vraiment.
Qu'est-ce qu'il faut craindre de ça? Parce que moi, j'en reviens pas encore qu'un pays comme l'Iran est capable de mettre la superpuissance des États-Unis dans sa poche arrière. Mmh.
Parce que faut... Trump a de l'air vraiment d'un caniche qui jappe et qu'il ne faut plus rien.
Exactement. Il faut craindre quoi de ça à l'échelle mondiale? Ben beau ridiculiser Trump et rire de lui, là, je trouve que ça n'a pas de sens ce qu'il a fait, mais quand même, les États-Unis sont censés protéger le monde, puis là, ils sont même pas capables de battre l'Iran.
Ouais, ben ils veulent plus protéger la planète. Là. Ils sont rendus très isolationnistes.
En effet.
Mais cela dit, là, je vais citer Clausewitz, qui est un philosophe militaire, puis il dit que la force militaire, la force armée, est une prolongation du pouvoir politique. Puis c'est ça qui se passe en ce moment. Parce que là, les États-Unis ont utilisé la force militaire pour atteindre des objectifs politiques, puis ils sont pas capables parce que c'est la politique qui prend trop de place. Parce que dans le débat avec l'Iran, c'est purement politique. C'est que de la géopolitique.
En effet.
Le militaire a plus rien à voir là-dedans. La seule solution, vraiment, ce serait d'envahir puis de complètement renverser le gouvernement. Mais ça, c'est un autre paire de manches, puis personne ne veut aller là. Tout le monde a appris des erreurs de l'Irak puis de l'Afghanistan. Donc là, pour répondre à ta question, je pense qu'à long terme, parce que là, on focus beaucoup sur le court terme parce qu'on veut que ça se règle.
Oui, c'est ça, mais à long terme, là, ça va complètement changer la stature mondiale.
Bien, je pense que oui, parce que de un, ce qui concerne l'Iran, ils vont devenir des sponsors du terrorisme, une affaire pas possible. Ils sont déjà, puis là, ils sont dédouanés complètement, sont décomplexés. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec le dossier nucléaire, parce que ça, c'est comme tout le temps un peu l'angle mort dans cette situation-là. Mais pour l'ensemble de la planète, ce que ça dit, c'est deux choses. Premièrement, t'as beau avoir la plus grande puissance au monde, si ta politique est pas bonne, ben tu vas te planter. Puis la Russie vit ça avec l'Ukraine en ce moment. Je fais une parenthèse. En Russie, il y a, je pense, c'est 12 raffineries, puis il y en a 11 qui ont été sautées complet.
Personne n'aurait pensé ça au début de la guerre.
Fait que là, Poutine a même sorti publiquement pour dire « Ouais, c'est vrai que temporairement, ça va être plus compliqué, mais on va acheter du pétrole ailleurs, puis ça va bien aller. » Alors que, rappelons-nous que la Russie était l'exportateur net de pétrole le plus grand au monde avant l'Ukraine. Là. Donc là, une superpuissance, là, je me sens guillemets, parce que là, on découvre qu'il n'y a pas tant que ça, a rentré en Ukraine, qui était censé être un pays quasiment en développement, puis là, ils sont rendus à manquer de pétrole localement parce que leur politique n'est pas bonne. Donc là, à l'ensemble de la planète, ben, des petits pays vont se sentir pas mal plus décomplexés de résister à des grandes puissances dans des situations précises. Là. C'est pas vrai pour tout le temps. Tu sais, on l'a vu avec le Venezuela, que ça a fait, puis là, finalement, c'était réglé, on a changé de régime.
Bon, on n'a pas tant changé de régime.
Ben, semi, oui, effectivement, tu as raison. Puis ça, d'ailleurs, je fais une autre parenthèse. Tremblement de terre en Chine, ça fait 8 milliards, 9 milliards de dégâts. Les États-Unis envoient 150 millions en donnant une petite tape sur les fesses en disant « Vous êtes capables, gang, let's go, lâchez pas. » Puis pendant ce temps-là, ils extraient des milliards et des milliards de pétrole qui s'en vont au profit des entreprises américaines. C'est des choses comme ça qui rendent la planète tellement cynique par rapport aux États-Unis que ça les aidera pas non plus à long terme.
C'est l'Union européenne qui va prendre le dessus de ça en bout de ligne?
Ben, on aimerait ça parce que ça nous ressemble. Ça nous ressemble.
L'Union européenne. Ben, c'est parce que tu sais, moi, l'Union européenne, puis là, je le dis, là, ça ressemble au Canada. Moi, ça me semble être les adultes dans la pièce à l'heure actuelle.
Sauf que, là, encore une fois, il y a une nuance qui est plate, c'est que l'Union européenne est ingérable. C'est un zoo total, parce que le Parlement européen, c'est dysfonctionnel à mort. Là. Puis, tu sais, techniquement, ils sont censés se coordonner pour les intentions militaires.
Mais ils se coordonnent pas bien.
Pas tant. Fait que là, t'as pas une armée unifiée. Tout le monde est un peu à travers ça. Puis là, il y en a qui développent leur armement. Il y en a d'autres qui s'en foutent un peu. La Pologne, l'Allemagne sont en réarmement massif. La France aussi, pas pire. Mais là, il y a pas tu sais, ils sont pas coordonnés, dans le fond, sur leur stratégie. Fait qu'on aimerait ça que la puissance européenne soit unifiée, mais c'est comment qu'il y en a de 15, 16, là, je ne sais plus, dans l'Union européenne, qui ont chacun leur propre intérêt. Fait que tu peux jamais unifier tout ça comme une fédération comme au Canada, qui est déjà dysfonctionnelle un peu quand même, la Confédération. Maxime pourra peut-être applaudir quand je dis ça. Mais c'est un peu dysfonctionnel.
On le voit avec le Québec et l'Alberta. Là,
c'est ça. Mais on chante tous le même hymne national. T'sais. Fait qu'imagine un Parlement.
Surtout quand on gagne 1-0 au soccer.
Ouais, genre.
Il n'y a pas grand monde qui chiale sur l'immigration. Hein? Quand tu regardes le soccer et à quel point
le Canada
fait bonne figure. Merci à l'immigration. C'est pour ça qu'on réussit à performer au soccer.
Ouais, j'avais ce débat-là justement avec des amis. T'sais. Il y a 20 ans, le soccer, ça marchait fuck all.
Ben non.
Puis au Canada, mais c'est l'immigration qui a généré ça.
200 000 jeunes au Québec qui jouent au soccer. C'est le double de jeunes qui jouent au hockey.
Exact. Hey, je veux te ramener au Venezuela. Max nous parlait un peu plus tôt ce matin. 1450 morts, 189 immeubles qui auraient été détruits, des milliers et des milliers de blessés. C'est assez particulier ce qu'on nous raconte dans les nouvelles parce que, bon, on va se le dire, là, il y a eu un changement de garde au niveau du Venezuela. Le président était kidnappé, puis il est actuellement aux États-Unis. Il a été remplacé par Delcy Rodriguez. Mais il y a Maria Corina Machado, qui est la figure de l'opposition vénézuélienne, qui veut revenir au pays. Et ce qu'on nous raconte, c'est que l'armée du Venezuela sont pas nécessairement enclins à vouloir aider à faire des recherches. Il y a des fois, c'est la population qui est autour qui doivent demander aux soldats qui sont sur place de prêter main forte aux recherches. C'est-tu de l'opposition au fait que les Américains sont sur place pour aider?
Bien, ils ne sont pas tant physiquement sur place. Il y a les entreprises, notamment pétrolières, qui sont là. Mais l'armée américaine n'est plus tant présente au Venezuela. T'sais. Mais je pense que chaque pays, dans le fond, l'armée est utilisée différemment. Si on regarde, mettons, le Canada, c'est très neutre, c'est très tiers. L'armée, on s'en sert pratiquement jamais. Il faut vraiment que ça aille pas bien. T'sais. Alors que dans d'autres pays, comme en Égypte, par exemple, là, l'armée, c'est eux pas mal qui dictent la stabilité sociale. Puis s'il y a des changements gouvernementaux, ils vont dans les rues puis ils stabilisent les choses. Au Venezuela, l'armée était très liée au régime, donc très liée à Maduro. Maintenant que Maduro est disparu, ben là, il y a Delcy Rodriguez qui a repris un peu le lead, mais elle n'a pas le même ascendant social, si on veut. Parce que Maduro, c'était un dictateur fort qui avait mis, puis là, je dis pas ça dans des termes positifs, mais il avait mis en place son système à lui, son régime à lui. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est comme un peu flou tout le temps, là, l'exercice du pouvoir au Venezuela depuis ce temps-là. Donc là, que l'armée ne s'investisse pas dans les recherches, premièrement, je pense qu'il manque de ressources. Là. L'armée vénézuélienne, c'est peut-être pas un grand exemple de technologie puis de capacité sur le terrain. Mais au-delà de ça, je pense que c'est juste un désintérêt par rapport aux affaires publiques. Donc là, le gouvernement est un peu mal pris avec ça. Puis je pense qu'en coulisses, ça se retourne et ça dit aux États-Unis, « Hey, c'est correct, là, vous êtes investi ici, vous allez tirer profit de la situation, mais vous faites quoi pour nous aider? » Puis la réponse, c'est pas mal un téléphone qui s'en engagé.
Okay, parce qu'on nous dit qu'il y a vraiment des Américains qui sont sur le terrain, là, des équipes spécialisées en recherche et sauvetage urbain avec des chiens renifleurs. Il y a eu de l'équipement qui a été envoyé par des avions militaires, ouais. Ça c'est sûr et certain. Puis il y a la présence de navires militaires américains pour soutenir la mission humanitaire et la logistique. C'est pour ça que je me demandais...
Mais c'est pas l'armée, ça. C'est comme de l'aide civile, ça, ouais, ou paracivile.
C'est une réaction de l'armée parce que les Américains sont sur place?
Je ne pense pas. Je pense vraiment que c'est juste que l'armée est dysfonctionnelle puis est désorganisée. Puis, je ne suis pas spécialiste du Venezuela localement sur le terrain, là, on se comprend. Sauf que moi, ma lecture de la situation, c'est que cette armée-là est dysfonctionnelle puis ne veut pas s'engager là-dedans. Ils veulent pas avoir affaire avec les affaires civiles, si on veut, depuis qu'il y a eu un changement de régime. Donc là, il y a tout le temps ça, dans le fond, de l'aide internationale dans des séismes comme ça. Là, en Haïti, ça a été vrai aussi, puis un peu partout ailleurs. Mais là-dedans, c'est un peu aussi un test de la doctrine de Donald Trump, parce que lui, il est revenu à la doctrine Monroe qui disait que toutes les Amériques, c'est la sphère d'influence des États-Unis. Ben correct, t'as de l'influence dessus, mais une fois que t'as dit ça, dans une catastrophe naturelle, tu fais quoi? Parce que là, tu me dis que tu me protèges, tu me dis que j'ai pas le droit de faire affaire avec personne d'autre, que la Chine est barrée du Venezuela, correct, mais toi, tu fais quoi, là? Puis là, ben, c'est 150 millions qui étaient débloqués pour des chiens renifleurs, des choses comme ça. Mais tu sais, ça va être minimal par rapport au coût de la reconstruction de toute cette histoire-là. Là.
Ouais.
Donc là, ça va laisser des traces, là encore, sur l'envergure, dans le fond, que les États-Unis veulent avoir à travers la planète, l'empreinte qu'ils veulent avoir. Puis là, tu sais, on sent vraiment une espèce de dissonance cognitive où ce qu'on... On veut, là, je parle les Américains, Donald Trump, on veut beaucoup d'influence, on veut que les gens nous respectent, on veut qu'on être incontournable, mais on se désengage à la grandeur de la planète. Fait que les deux sont comme incompatibles.
David Chabot, je te souhaite de passer une super de belle semaine. Tu prends-tu des vacances bientôt?
Ouais, construction plus un.
Ouais. Tu savais-tu que mon chum Max a failli se faire sacrer dehors du karaoké encore pendant sa semaine de vacances? Tout.
J'ai failli me sacrer dehors.
T'as failli te sacrer dehors. Non, t'as failli te faire mettre dehors.
Vraiment pas. Là, tu comptes les histoires, tu croches.
À l'intérieur du bar qui voulait que tu t'en ailles. Mm-hmm.
Non, il y a des. Les gens voulaient plus que je chante parce que je chante trop, parce que je suis trop bon, fait qu'ils me font passer souvent. Puis c'est moi qui a dit: hey, c'est bien beau, si tu m'empêches de chanter, tu me reverras plus à face ici.
Ah ouais?
J'ai failli me sacrer dehors.
Mais c'est-tu vraiment par talent, mettons?
Ben non, oui!
On se dit vraies affaires, on s'en garde du yeux dans les yeux. Tu sais, genre, tu passes-tu souvent parce que tu veux passer souvent ou c'est parce que là, les gens, genre.
Ben pourquoi
juste?
Tu penses qu'ils me laissent passer souvent? C'est parce que je donne un bon show. Ben, et pendant que je faisais Mr. Brightside, okay, je faisais du body surfing sur le monde pendant que je chantais.
Sais-tu pourquoi ils passent souvent, David? Là, je vais te révéler un secret de Max, là.
C'est fou, ça.
C'est qu'il s'inscrit sur des noms différents sur la liste de karaoké.
OK.
Ben oui, mais s'ils voulaient, ils savent là, que c'est moi. Là. Eux autres, ils les connaissent, mes différents noms,
c'est
les
quoi,
animateurs.
C'est quoi les noms qu'ils utilisent?
Ben, il y a l'Archie, il y a Maxime Gun Kelly. Quand je chante du Maneskin, c'est Max Neskin.
Ça, c'est malade. Quand je chante du Maneskin, c'est Max Neskin.
Non, mais Maxime Gun Kelly, là, c'est...
Ça, c'est le meilleur, est... là, oui. il a le syndrome de la triple personnalité, mais partout dans sa vie, au karaoké, quand il parle de hockey, quand il veut composer des chansons sur le Canadien, il y a toujours le syndrome de la triple personnalité.
Puis je veux juste te dire, quand moi je suis fan d'un band, là, puis je m'en vais avec mon chum David au centre Vidéotron, là, puis on écoute le band, t'sais, les gens en redemandent. Puis quand le show est fini, le monde reste debout puis applaudissent pour avoir des rappels.
Oh, c'est une vaste majorité du bar qui est...
T'as jamais eu de rappel, Max?
Ben oui, j'en ai souvent. Ben, hey, toutes les fois que je débarque, je me fais dire par plein de monde que c'était malade. Puis il y a quelques jaloux, comme dans toutes, qui veulent leur petit moment de gloire eux autres avec. C'est correct, je le comprends.
C'est là, les autres, là, il y a des jaloux.
Ben oui. Je comprends.
Je fais du karaoké.
C'est épouvantable.
Je comprends.
Ouais. Max, on t'aime.
Ouais, vraiment. Qu'on t'aime.
Moi aussi, sur la route, mon ami.
La 20 dans les deux directions, coin Taniata, il y a un ralentissement, mais c'est pas mal tout ce que j'ai à vous dire.
Tu penses-tu que le fameux P38, Max, ça pourrait t'aider?
Ah oui, où on vient le cueillir de force.
Oui, venir le cueillir de force pour l'incarcérer, on pour se soigner.
Oui, le P38, on va utiliser ça.
On fera pas ça, Robert Chiffon. On fera pas ça, Robert.
9-1, oui, bonjour, venez cueillir mon ami Maxime au 815 de mon 9.
8h28, courte pause, on revient. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'en informer. 88-971-1021, vous êtes nos yeux, nos oreilles, c'est par texto. Boulevard 1021.